יופי. אופרה. יופי, שלום לכולם, ערב טוב, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et si je ne m'abuse, nous avons terminé la paracha de Teruma. Nous arrivons donc dans la paracha de Tetzavé, c'est-à-dire chapitre Kaf Zain, verset Kaf. Chapitre 27, verset 20.
C'est le début de Tetzavé.
Exactement, c'est le début de la paracha de Tetzavé. Donc, dans la paracha de Teruma, on a parlé du Mishkan idéal, c'est-à-dire du Mishkan sans intermédiaire entre nous et Ribono Shel Olam. C'est l'idéal. Et donc, on a parlé de l'intériorité du Mishkan, on a parlé de la structure du Mishkan, en mettant l'accent sur Moshe Rabbeinu, alors que Aaron, qui semble a priori être le principal intéressé, eh bien, était absent de la paracha. Ici, dans la paracha de Tetzavé, c'est tout l'inverse. On l'avait expliqué, c'est la dualité du Mishkan. Est-ce que le Mishkan, il est l'Echatrila ou Bediavad? C'est-à-dire, est-ce qu'il est a priori dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu pour avoir un endroit de rencontre avec lui? Ou alors, est-ce que c'est un endroit pour, eh bien, expier nos fautes? D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, cette dualité, on la retrouve dans, je ne sais plus si on l'avait dit, dans le piyout très connu de Pessah. Le piyout qui dit « Dai Dayenu ». Alors, chacun avec son air, hein, on ne va pas commencer à chanter, mais « Dai Dayenu », qu'est-ce qu'il dit « Dai Dayenu » ? Eh bien, il nous dit toute une liste de choses que Dieu nous a fait. Et on dit merci, et on dit ça nous aurait suffi pour remercier. Et on termine en disant Ilu ichnisanu l'eretz Israël velo banalenu et bet amikdash ou et bet abechira dayenu. Ça, c'est dans la première version. Vous aurez remarqué que dans la Haggadah, une fois qu'on a fini la chanson, on reprend une deuxième fois toutes les choses. On dit Alachat kama vechama tova kfula ou mechupelet la makom alenu, che. Et là, on refait toute la ligne. Sauf que, toute la liste, mais sauf qu'à la fin, on dit Velbana lano et bet amigdash ou et bet abechira, et là on rajoute Lechaper al kol avonoten, pour expier de toutes nos fautes. Et donc la question dans la première version, c'était pas marqué Lechaper al avonoten, non. Ici, c'est marqué cette dualité-là. Est-ce que le migdash est un endroit idéal de relation entre Dieu et nous, ou est-ce que c'est un. C'est les, quelque part bédiaval pour corriger mes fautes. Et donc on avait cette dualité entre Torah de Moshe et Torah de Aaron. Et donc si le Mishkan de Teruma c'était la version Moshe, eh bien maintenant nous arrivons dans la version Aaron. Mais ça a l'air. Et donc cette fois c'est le nom de Moshe qui n'apparaîtra pas dans la paracha, alors que on parle de lui tout le temps, mais on ne le cite pas. Ve'ata. Tiens. Justement, Ve'ata, et non pas Moshe. D'habitude, quand Dieu s'adresse à Moshe, quel est le verset qui ouvre le dialogue de Dieu avec Moshe? Eh oui, Vaïdaber Hachem, Moshe est mort. Là, non, Ve'ata. Ve'ata Tetzavé. Attendez, dans le début de la paracha de Teruma, on avait dit, je vous ravive la mémoire, Vaïdaber Hachem, Moshe est mort. D'abord, El Bene Israël, Ve'itnouli. C'est-à-dire que ça venait du bon cœur des gens. Ici, on nous dit « Ve'ata tetzavé ». C'est un ordre. Pourquoi? Puisque dans la mesure où notre paracha eh bien, admet l'éventualité de la faute, ça veut dire que l'homme n'est plus idéal. À ce moment-là, on ne peut plus seulement compter sur sa bonne foi ou son bon vouloir à donner. « Tzarir le tzavot ». Ça a l'air? C'est comme une société qui serait idéal, alors tout le monde comprendrait qu'il faut donner pour les pauvres, mais une société qui n'est pas idéale, elle comprend qu'il faut imposer de mettre des impôts. D'accord ? Ve'ata tetzavé et bnei Yisrael ve'ikru elecha shemen zayit zach katit la maor la'alot ner tamid. Alors, on a l'habitude de dire comme ça dans la paracha de Teruma, qu'est-ce qu'on avait demandé d'amener en premier lieu ? Veitnu li, qu'est-ce qu'ils avaient donné? D'abord, Hashem Moshe est mort. D'abord, Bnei Israël va monter l'air. Qu'est-ce qu'ils disaient? D'abord, Bnei Israël va écrouler Teruma, mettre les choses en ordre, dire quoi est-ce que vous bâtissez? וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, כסף, נחושת. C'est-à-dire que dans la terouma, on nous avait demandé d'amener de l'or, de l'argent, du cuivre. Et ici, on nous demande quoi ? De l'huile. À quoi ça sert l'or, l'argent, le cuivre ? Ben, c'est pour construire les ustensiles du Mishkan. À quoi ça va servir l'huile ?
Pour utiliser.
C'est-à-dire ?
Quel
ustensile ?
Du Mishkan.
Ben, lequel ?
Le candélabre.
Ouais, ben oui. Qu'est-ce qu'on a besoin comme huile ? Allumer la menorah. C'est-à-dire ? Alors, on a l'habitude de dire comme ça, je ne sais pas si... Enfin, c'est vrai, mais... qu'on est obligé de donner un ordre pour l'huile et pas pour l'or et l'argent et tout ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec l'or et l'argent, on va construire du solide, des trucs qui restent. Vous savez que quand... Alors, demandez à votre cher président, pourquoi c'est plus facile de trouver des donateurs ? Est-ce que c'est plus facile de trouver des donateurs pour des monuments ou pour... le kidouche de l'année. C'est beaucoup plus facile de trouver des donateurs quand, quand on peut leur dire bah, « Vous inquiétez pas, on mettra une belle plaque avec le nom » que pour donner à Aruchat Tzahoraim une année complète à des élèves. « Shemen Zayit Zach » il n'y en aura plus à un moment donné. Et personne ne saura que c'est toi qui l'as donné. ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, כתית למאור, סליחה, לעלות נר תמיד. Donc on doit allumer. Il semblerait que dans le Mishkan de Aaron, la première chose à faire, c'est לעלות נר תמיד. Pour rappeler, on avait dit que dans la menorah, il y a cette dimension de Kedusha, enfin de présence divine au sein du peuple juif. Vous vous rappelez, on avait parlé de ce miracle permanent dans la menorah. Et donc, puisqu'on parle d'un Mishkan ici qui est pour des gens qui ont fauté, on pourrait penser que le fait que tu as fauté enlève la présence divine. Eh bien non. Yesh Nerot Lealot Ner Tamid. C'est-à-dire que la présence divine, elle reste même si tu as fauté. D'accord ? בוא אל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. Cette fois, qui est astreint à allumer la menorah? Chapitre 27, verset 22-23. Début de la parasha de Tetzaveh. Donc, qui est astreint à la avoda de la menorah? À Kohen Agadol. Aaron ubanav. C'est-à-dire? Et là aussi, c'est quelque chose d'important. Là, pour la première fois, on voit le mot Aaron, mais ça veut dire aussi que celui qui va allumer la menorah, c'est le Kohen Gadol. Il n'est pas obligé. Il peut laisser sa place, son tour, à un autre Kohen, mais a priori, c'est lui qui a la primauté. Pardon ? Oui, c'est fils après lui. C'est fils après lui. Il est. Asher al ha'edut ha'erah, me'erev ad boker lifnei Hashem, chugat olam medorotam, me'ed bnei Yisrael. Ve'ata. הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. Il faut maintenant séparer Aaron et ses enfants מתוך בני ישראל. Pourquoi faire? לכהנו לי. Pour qu'ils deviennent Kohen. Et voilà, pour la première fois, on va avoir des Kohanim. Est-ce qu'on avait déjà vu des Kohanim dans la Torah? On a déjà vu des Kohanim, mais pas chez nous. On a vu Yitro qui était Kohen Midian. Et avant lui, on avait vu Malkitzedek, ou Kohen l'Elion, dans le livre de Bereshit.
L'Elion,
c'est le dieu d'en haut. Ok ? Donc là, pour la première fois, on va introniser les Kohanim dans le peuple juif. Il s'agit de qui ? Aaron, Nadav ve'Aviou, Elazar ve'Itamar, bene Aaron. C'est pas mal. Qui n'a pas été sélectionné dans le verset ? Eh bien, celui qui est déjà en vie à ce moment-là, mais qui n'est pas le fils de Aaron, mais qui n'est que le petit-fils de Aaron. Il s'appelle Pinchas. Pinchas est déjà en vie à ce moment-là, mais il n'est pas Cohen. Pourquoi il n'est pas Cohen ? Parce que ici, la Torah nous a dit Aaron ou Banav. et pas Bene Banav. Une fois que Elazar et Itamar sont devenus Cohen, leurs enfants le deviendront après. Mais une fois que, enfin, pour l'intronisation, on a dit Aaron ou Banav, on n'a pas dit Aaron et toute sa descendance. Donc Pinchas, qui est déjà en vie à ce moment-là, est laissé sur le carreau. Il n'est pas Cohen.
C'est le
petit-fils de Aaron, le fils de Elazar. Il deviendra Cohen avec Maaseh Pinchas à la fin du livre de Bamidbar. D'accord ? Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on a séparé les Cohen.
Ils sont trois pour l'instant.
Pour l'instant, ils sont trois. Enfin, non. Pour l'instant, ils sont cinq. Parce que toi, tu sais que Nadav et Avihu, ils vont mourir. Mais pour l'instant, ils ne sont pas morts.
Oui.
Donc pour l'instant, il y a Aaron, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Ok ? Pour l'instant, on a cinq Cohen. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de séparer les Kohanim du reste du peuple ? Eh bien, on a dit, parce que le peuple n'a montré son incapacité à être relié à Kadosh Baruch Hu sans intermédiaire, on leur donne des intermédiaires. Ces intermédiaires vont donc venir de la famille de Aaron. Qu'est-ce qu'il a de particulier à Aaron ? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a choisi pour être le Kohen ? Lama. Pourquoi lui plus qu'un autre ? D'ailleurs, pourquoi lui plus que Moshe ? Pourquoi c'est pas Moshe qui est le Kohen au Bet Amigdash ? Ou alors, je sais pas moi, le chef de la tribu de Yehuda ? Aaron particulièrement ?
C'est le roi de la tribu de Kohen.
Il n'y a pas encore de tribu de Kohen.
Non, de la tribu de Lévi.
C'est le rôle d'enseigner la Torah, c'est pas forcément le rôle d'être Kohen au Bet Amigdash. D'autant plus que ça, à la base, ça ne devait pas être Aaron et les Kohanim,
oui,
ça devait être les Bechorot.
Les Bechorot.
Donc pourquoi est-ce que c'est... Eh bien, tout simplement parce que Aaron ou Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, Ome Karavan, la Torah. C'est-à-dire que Aaron, son truc, Shalom, pas de problème, moi aussi j'étais en retard. Donc tout va bien. Aaron, son truc, c'est le Shalom. Et c'est très important de le savoir parce que, nous dira le Talmud, chez Akadosh Baruch Hu, lo matzak li marzik bracha yoter me ha-shalom. Sheneemar, Hashem yevarech et amo ba-shalom. En d'autres termes, le shalom, c'est l'outil qui permet le mieux de dévoiler Dieu. Qui parmi le peuple juif est le mieux placé pour faire le shalom ? Aaron. Et donc la particularité de Aaron et de ses enfants doit être la capacité de faire le shalom entre les cieux et la terre, entre Hachem et le peuple d'Israël et le monde Bichlal. Donc ça veut dire que dans la mesure où le Beth Amikdash est l'endroit de la relation entre Dieu et l'homme, eh bien il faut que ce soit des hommes de shalom, de shlemut, qui permettent de faire le lien.
Il me semble que Moshe Rabbeinu est un homme de paix et de shalom.
Moshe Rabbeinu n'est pas du tout un homme de paix et de shalom. Moshe Rabbeinu est un homme de total, de émet, jusqu'au bout. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voit les gens faire le veau d'or, il ne demande pas « on va se calmer, tout ira bien ». Il tue 3000 personnes qui ont fait le veau d'or. Lorsque Moshe Rabbeinu doit faire la guerre, il fait la guerre.
Oui, mais il a fait la guerre entre Dieu et le peuple juif pour les libérer.
Alors, il a appris de Aaron, tu as raison. C'est pour ça que, tu as raison de le rappeler, quand on est sorti d'Égypte, il fallait à Moshe comme aide à Aaron. Okay ? Il ne peut pas jouer tout seul, Moshe. Mais ça y est. Donc, on a séparé les Kohen. Alors, le problème, c'est que si on parle de nous, du peuple juif tel qu'il est pour de vrai et pas seulement tel qu'il est dans l'idéal, on a dit on fait des erreurs. On fait des erreurs. L'âme, est-ce que ça vous arrive de faire des erreurs dans la vie ? Je ne veux pas de réponse. Je ne me permettrai pas de vous poser ce genre de questions pour de vrai, mais ça peut nous arriver. Qu'est-ce qui est, l'outil, mais ce n'est pas vraiment un outil. Qu'est-ce qui nous fait tomber de manière générale ? De manière générale, on a un outil qui nous permet de ne pas tomber. C'est ce qu'on appelle...
La Emouna.
Non, pas la Emouna, à Sechel. Notre Emouna, elle peut nous faire tomber aussi.
C'est bon.
par exemple, j'ai une émouna incalculable que Dieu va me sauver, et donc je décide, de, pour le prouver, de sauter du toit de Azrieli.
Du troisième étage.
Bah, plus encore. Ma émouna, elle m'a fait faire une erreur, là. Ok ? Donc, le sechel. Je tombe pas. J'ai appris ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite. Mais il y a des forces qui ne sont pas le sechel, qui vont soit me faire tomber, soit pas. Mais très souvent, quand je tombe, c'est à cause de ces forces-là. On appelle ça koach ha-medame, ha-dimyon, c'est-à-dire l'imaginaire. Exemple. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. N'y voyez ici aucune propagande, quelle qu'elle soit. Mais il y a aujourd'hui, dans notre monde, des panneaux publicitaires. Pour plein de choses. Pour des vêtements qui, a priori, ne devraient pas être montrés. Pour des aliments. Pour plein de choses. Ces panneaux publicitaires montrent des images absolument incroyables. Alors, s'il s'agit d'êtres humains, ce sont des êtres humains qui ont été retouchés par Photoshop. Et si ce sont des aliments, ce sont des trichimes incroyables. J'ai vu dans l'un de mes derniers passages dans un endroit dans ma maison où je n'ai pas le droit d'étudier la Torah d'après la Halakha. Donc, il faut bien trouver une occupation dans cet endroit-là. Eh bien, j'ai vu une vidéo de comment les publicitaires sont experts en mensonges publicitaires. Et donc, par exemple, et là, c'était une vidéo sur les publicités pour la nourriture. C'est fantastique que les publicitaires ne mettent jamais de lait dans les pubs pour céréales. C'est un bol rempli de colle blanche.
Ah, d'accord.
Pourquoi la colle blanche ? Parce que la colle blanche est beaucoup plus blanc que le lait. Et en plus, ça permet de coller des morceaux de céréales en haut qui vont être bien en évidence. Et toi, tu as l'impression qu'il flotte, mais en vrai, dans ton bol, ça n'a jamais la tête de la pub. C'est fantastique. C'est-à-dire, donc, c'est ce qu'on appelle le dimion. Achava dimion, l'imaginaire, ben, quand tu le tournes vers ce genre de choses, atanophel. Quand ton imaginaire, ce sont des femmes pas tellement habillées, parce que c'est ce que tu vois quand tu prends la route de Ayalon à Tel Aviv. C'est ça qui te reste gravé dans la tête. Donc, pour pouvoir corriger cela, on va te donner un dimion de Kodesh. Dimion de Kodesh.
Dimion,
c'est l'imaginaire. Ok ? Par exemple, qu'est-ce qui vaut mieux ? Vous savez, nous, enfin moi, quand j'étais jeune, on avait des albums d'autocollants comme ça. On allait au bureau de tabac et on achetait Panini et autres. On achetait des trucs comme ça. Et combien on a dépensé d'argent avec 7 fois le même en double. Chez là, c'est quoi qui est mieux d'avoir comme album ? Est-ce que c'est mieux d'avoir un album des différentes équipes de la L1, de la première division de football française ? Et donc, ton dimion, il est mis sur des joueurs de foot ? Ou alors sur des dessins animés, ou alors, bon là mon fils ça va, je vais acheter un album sur tous les paysages et les animaux d'Eretz Israël. Donc ça, ça passe. Mais je sais qu'il y a des albums aux États-Unis de Rabbanim Hassidim. Ah, tu as la carte du Rabbi de Gour, c'est incroyable. Moi je ne l'ai pas, viens on échange. Alors c'est marrant. Mais en fait, quand ton bébé naît, qu'est-ce que tu vas décider de mettre comme images qui vont être les premières images qu'il va voir dans son berceau ? Est-ce que tu vas mettre des images de papillons, d'escargots, de toutes les couleurs, machin ? Il y en a qui mettent des images de Rabbanim. Pour que les premières images qu'ils aient, ce sont des images de Rabbanim. Bon, il y a des pour, il y a des contre. Chez Chabad, par exemple, on ne met pas d'images d'animaux qui ne sont pas cachères. Par exemple. qu'est-ce que moi je vais amener comme Koach Medamé, comme imaginaire, pour contrer l'imaginaire mauvais? Eh bien, la Torah nous dit, Ine, Vasita Bigdei Kodesh Leharon Achicha Lechavod Ultifaret. On va parler maintenant des Bgadim des Kohanim. À quoi servent les Bgadim des Kohanim? Ils n'ont qu'un seul intérêt. Quel est l'intérêt des Bgadim des Kohanim?
Leur donner une prestance.
C'est-à-dire faire en sorte que toi, quand tu vois, tu dises waouh. Zéou. Zéaïnien. Parce que tu es tellement influencé par les images d'autres choses, on veut te donner ici une image de Kedusha. D'accord? C'est Zénachon. Des fois, tu te dis, comment tu sais qu'un rave est grand? Ben, au lieu de t'as pas étudié ses livres ou tu connais pas, mais tu vois comment il est habillé, alors tu dis forcément il est grand. Et je me disais, machin. C'est pas toujours vrai du tout, hein. Des fois, t'as des rabbanim, t'as des débats entre des rabbins. T'en as un qui s'habille en costume, trois pièces, cravate et tout, bien, bien lustré. Et l'autre, il vient avec une chemise à carreaux, un peu débraillée, et en pantalon qui n'est pas un pantalon de costume, et en sandales, il ne manquerait plus qu'il soit en sandales.
Non, sandales chaussettes.
Sandales chaussettes, ce serait pire. Bah, le public, il a déjà choisi qui était le plus grand Talmid Chacham. Ce qui n'est pas forcément vrai.
C'est sûr.
Ça a l'air. Donc,
est-ce qu'il y a un peu dommage, c'est que la Torah ne précise pas si la tunique des Kohanim du premier temple était la même que les Kohanim qui vivaient au deuxième temple.
On n'a aucune raison de penser que ce n'était pas la même.
Non, il n'y a pas une petite différence sur la couleur, la teinture.
Non, c'est blanc. Pour les Kohanim, c'est assez facile. Donc, non, il n'y a pas de raison de penser que c'était différent. A priori, je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Donc, alors, venez, on rentre maintenant dans les Bgadim. Parce que c'est de ça qu'on parle. Vasita Bigde Kodesh. Beged, Zetov, Ozera. Beged. Donc, tu dis, c'est parvé. Sauf que des fois, le Beged, il serait pas un peu Boged? Ah, moi je fais des jeux de mots, mais si tu comprends pas le jeu de mots, ça marchera pas. Ça veut dire traître, exactement. Eh oui. Des fois, on va mettre des habits qui nous trahissent. Ils ne reflètent exactement qui on est ou pas? Le Beged, des fois, il peut être traître. On dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Mais imaginons quelqu'un qui s'habillerait, je sais pas moi, en taille 44, alors qu'en fait il fait son corps c'est un 36. C'est boged, c'est l'obémetata. Ou alors tu t'habilles comme un président et en fait tu es le dernier des losers. C'est boged. Ou l'inverse, tu t'habilles n'importe comment, mais en fait tu es le PDG d'une multinationale qui fait des milliards. Boged. Donc, ce que l'homme décide de mettre sur lui pour se vêtir, eh bien, ce n'est pas anodin. Il y a plusieurs termes qui déterminent les habits. Il y a le beged, qui donc peut être négatif. Il y a ce qu'on appelle le levouche, l'obosh, qui enlève la boucha. Et il y a les madim. Madim, on a traduit en français par uniforme, mais c'est pas ça. Madim, c'est ce qui est moded. C'est ce qui me mesure vraiment. Ça a l'air. Et donc, c'est pour ça que la chassidoute va appeler les midot levouché à nefesh, les habits de l'âme. Mais ça a l'air. Donc, les bagadim, c'est pas stam. D'autant plus que c'est ce qui détermine l'être humain comme étant être humain. Qu'est-ce qui détermine l'humain comme étant un humain? C'est qu'il s'habille. Toutes les cultures humaines ont le besoin de rajouter quelque chose à la nature. Alors, pas toujours des habits comme nous. Des fois, dans certaines tribus, où c'est une peinture sur le visage, ou alors un collier, ou alors... Mais il y a toujours quelque chose. Même dans les tribus que tu vois... dans des reportages, machin, qui sont nus, ils sont jamais vraiment nus. il y a toujours ce besoin de rajouter quelque chose, une parure, quelque chose. Parce que l'homme, en tant qu'homme, il ressent qu'il a besoin de compléter quelque chose par rapport à la nature. D'accord ?
Ça nous vient de Adam.
Ça nous vient de Adam, évidemment. Ok ? Donc, la dimension de Beged est fondamentale. Elle n'est pas parvée. Donc, c'est quoi les Bigdé Kodesh, les Aaron Achicha, les Chavod ou les Tifaret ? Veata ! Tedaber el kol chachem elev asher miletiv ruach chokhma. Donc, il faut de la sagesse. Mais une sagesse qui vient d'où ? Chacham, normalement c'est là. Ce mot-là est marqué Chachme Lev. C'est une sagesse, mais elle vient du cœur. Ok ? Hashem le dit roi Chokhma, ve asu bigde Aaron, le kadesho le chano li. Ve le abegadim. Alors, c'est quoi les habits des Kohen ? Ve le abegadim, asher ya asu, choshen, ve efod. Ummeil, uketonet, tashbetz, mitznefet, veavnet. Donc on a combien d'habits ? Bah, on compte. C'est pas compliqué. Choshen, veefod, ummeil, uketonet, tashbetz, mitznefet, veavnet. Donc on a combien ? 6. Seulement on sait très bien qu'il en manque 2 ici. Eh oui. Lequel il manque ? Le michnesaim, et il manque également le tzitz. En tout, le Kohen Gadol, il a 8 habits. Pourquoi 8 ? Comme on vient de dire, le corps de l'homme, c'est 7. Le corps de l'homme, c'est la nature. Les habits, c'est cette dimension de vouloir toujours rajouter quelque chose à la nature. Donc l'habit, il est par définition 8. D'accord ? C'est pas que tu es obligé de porter à chaque fois 8 habits. Mais l'habit, il est par définition 8. Donc chez le Kohen Gadol, il y a 8 habits. Ok ? Alors allons-y.
Pourquoi il en manque 2 ?
Ils vont apparaître juste après. Vem yikru et azahav, et atechelet, et argaman, et olat hashani, et ashesh, vasu et haefod. Zahav, techelet, et argaman, tolat shani. Shesh Moshzar Maase Choshev. Alors, d'abord, on va faire un Ephod. C'est quoi le Ephod ? Je vais vous dire. Vous savez comment on va faire ? On va pas aller dans l'ordre. Ce sera plus facile à comprendre si on va pas dans l'ordre. Donc, en fait, ce qu'on va faire. Ouais. Bon, tant pis, l'homme jamais. On va faire dans l'ordre. Après, à la fin, on fera une conclusion pour essayer de faire du seder. Là, on va prendre les choses telles qu'elles arrivent. Vem ikru donc et azahav, et atechelet, et argaman, et olat hashani. Donc, on va prendre l'or, le bleu azur du trelet, l'argaman. Argaman, c'est du rouge indigo. Et olat hashani, c'est encore plus rouge. Et hashesh, c'est comme de la soie. ועשו את האפוד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש מושזר מעשה חושב ושתי כתפות חוברות יהיה לו על שני קצותיו וחובר וחשב עפודתו אשר עליו כמעשה וממנו יהיה זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש מושזר ודונק לאפוד זה הוא פעל דזבי דו כהן גדול ודונק לאפוד זה סקיבה את sur son meil et sur le ephod on mettra après le crochet. Mais en fait le ephod c'est une espèce de veste qui est tenue par deux pierres qui portent sur ses épaules sur lesquelles eh bien on va te marquer, on va te dire la carta et shtei avnei ha-shoham upitachta aleihem shemot bnei Israël. Donc sur l'une des pierres il y a six noms et les autres six noms, c'est les six noms et six noms qu'on va retrouver dans les brachot ou klalot, Be'ar Gerizim, Be'ar Eval. Shisha mishmotam ala even ha'echad ve'shisha ve'et shemot ha'shisha notarim ala even ha'shenit ketoldotam.
Quand on parle des noms, c'est les noms des tribus.
Oui, des tribus. Ma'asech ha'ash even pituche chotam u'tifachad. תפתח לך את שני האבנים על שמות בני ישראל, מוסבות משבצות זהב, תעשה אותם. שמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. Donc à quoi sert le éphod? Il sert à deux choses. Il sert à une chose positive et une chose négative. Il sert contre la Avodah Zara. Pourquoi il sert contre la Avodah Zara? Bien parce que le éphod était le cli utilisé par les Kohanim de Avodah Zara. Et donc eux portaient le éphod, les Kohanim Avodah Zara portaient le éphod au niveau de leur partie intime. Nous, nous le portons sur le cœur. Donc ça, c'est la première chose, la première dimension du éphod, c'est contre la Avodah Zara. Et deuxièmement, les Zikaron shel Bnei Israël. C'est de là on parle véritablement de l'expression porter le poids d'une responsabilité sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il porte le nom des Bnei Israël sur ses épaules. D'accord ? Donc ça, c'est le éphod. ועשית משבצות זהב ושתי שרשראות זהב, טהור, מגבלות, תעשה אותם, מעשה אובות, ונתת את שרשראות האובות על המשבצות, ועשית, donc on a des chaînes en or qui vont permettre de tenir le חושן. ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפוד, תעשינו זהב, תכלת וארגמן, ותולד שני, ושש מוזר, תעשה אותו. רבוע. Il est kaful zeret orgo ve zeret orbo. Donc le choshen, ce pectoral carré, il fait combien sur combien? 1 sur 1. 1 à quoi? 1 zeret, tu as raison. C'est combien un zeret? Et c'est ça. Zeret ze chatsi ama. Ama. Non. Ama, c'est plus ou moins Khatsi meter. C'est 48 cm. Donc Zeret, c'est 24 cm. Donc c'est un carré, un pectoral qui fait 24 cm sur 24 cm. Ok ? Rabouaye kaful Zeret orkov Zeret rochbo, umileta bo miluat even arba turim aven tur. אודם פתדה וברקת הטור האחד והטור השני נופר ספיר ויעלום והטור השלישית לשם שבו ולחלמה והטור הרביעי תרשיש ושוהם וישווה משובצים זהב יהיו במילואותם. Donc vous avez compris, dans ce pictoral nous avons ארבע טורים, nous avons quatre colonnes de pierres précieuses qui représentent les Béné Israël. Alors, le problème, c'est que je vais avoir beaucoup de mal comme ça, de tête, à vous dire exactement de quelle pierre il s'agit. On va essayer, je ne me rappelle plus chaque nom en français. Tour, donc, Arba Tourim Aven, Tour, la première, c'est Odem. Mazé Odem. Azéo. Je disais Machloket, parce que le rubis, il n'était pas utilisé à cette époque-là. Donc, il semblerait que ce soit plus le... une pierre qui s'appelle le grenat, ou grenat. C'est la même couleur. Ouais, c'est la même couleur, mais c'était un peu plus rouge comme ça, mais c'est une pierre qui a été utilisée. Le rubis, il sera utilisé plus tard. Pitda, je ne peux pas te dire, ou bareket, c'est. Topaz, tu dis quoi? Topaz. Bon, alors très bien, on va se fier à ça.
Le saphir et l'émeraude.
Toi, il y a marqué saphir?
Oui, le saphir et l'émeraude.
Bon, je ne sais pas. Non, saphir, à mon avis, parce que c'est marqué après, donc à mon avis, ce n'est pas saphir. Et donc topaz, toi tu dis pitda, topaz ou bareket, on va lui faire confiance pour ce coup-là, je vais vérifier après le nom en français. Vatour Hacheni, nofer, sapir, veya alom. Alors qu'est-ce qu'il dit chez toi, nofer?
Ils mettent malakite, saphir et brillant.
Ouais, malakite,
ouais,
c'est.
Hein?
Ouais, bon, d'accord, sapir, veya alom, brillant. Pourquoi est-ce qu'on dit pas du diamant? Aujourd'hui on dit veya alom, c'est du diamant. Oui, mais est-ce que c'est un diamant? Il y a peu de chances que ce soit un diamant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les outils à l'époque pour tailler du diamant. Avec quoi on peut tailler du diamant? Soit avec du laser, soit avec un autre diamant. C'est compliqué de faire avec un diamant qui n'est pas taillé un autre diamant.
Il faut un diamant taillé pour tailler du diamant?
Bah, il faut que tu...
Il faut une pointe de diamant.
Ouais, il faut une pointe de diamant, que ce soit bien fait quand même. Ça paraît compliqué. Mais disons, allez, c'est quoi? Chez les diamants. והטור השלישית לשם שבו ואחלמה. Là, ils te disent quoi ?
Troisième rangée, opale, agate et améthyste.
Et ben voilà.
Là, c'est encore mieux. C'est les chèvres, hein? Chevaux et alma.
Ah ben c'est bien. Toi, ils ne sont pas foulés hein, chez toi. Hein. Il y a fait. Vatour arrivi, tarchish, vechoam, veyachve.
Les chrysolites, choam. Mon choam, ils n'ont pas traduit. Les jaspes.
Ah, des pierres de jaspe. Ça, ça existe. Mm-hmm. Top.
Mais choam, c'est quoi précédent ?
Eh ben, c'est choam.
Choam, c'est choam.
Voilà.
C'est
choam. Bonne question.
Une pierre précieuse en hébreu moderne, ça s'appelle marganite.
Ouais, mais pas qu'en hébreu moderne d'ailleurs, même en hébreu plus ancien. Bekitsour, j'irai vérifier exactement de quel. Que, c'est quoi exactement Shoham, en tout cas, c'est une pierre précieuse. Agave, toutes ces pierres ont été retrouvées. On sait, aujourd'hui, on les connaît. Et donc, au Mahon Amikdash, eh bien, vous avez le pectoral avec les pierres telles qu'elles sont marquées ici. בסדר? והתור הרביעי תרשיש שוהם והשווה משובצים זהב יהיו במילואם. דונק הקואסר לחושן, אילה קונטר לפרובלמטיק ליה או משפט. הרי זה חושן המשפט. זה לבא כמו בעבר אורים ותומים. זה איך כסה פור עבר עם קונקציון וויפי סנג'ה, אבק הקדוש ברוך הוא. C'est-à-dire, quand on avait une question pour les Inyané Malchut, Inyané Am Israël, on demandait, et les lettres des tribus qui étaient gravées sur les pierres apparaissaient pour donner la réponse. « Va'avanim tiena al-shemot b'nei Israël, shtem esre al-shemotam, pituche chotam, ish al-shemo, tiena, lishne asar, shavet. » Peut-être que tu peux tailler un diamant avec une pointe de diamant, mais graver le nom d'une tribu dedans, là, c'est... Là, c'est autre chose. Ça, ou alors, ils avaient déjà inventé le laser et on le sait pas.
Ils traduisent par brillant parce que c'est une pierre brillante.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, c'est pas du diamant.
Là, ils traduisent pas par diamant, ils traduisent par brillant.
בסדר. ועשית על החושן שרשרות גבלות מעשי אבות, זהב טהור. ועשית על החושן שתי טבעות זהב, ונתת את שתי הטבעות על שתי קצות החושן, ונתת את שתי הערבותות, הזהב על שתי טבעות על קצות החושן, ואת שתי קצות ושתי הערבותות תיתן על שתי המשבצות, ונתת על כתפות היפוד אל מול פניו. ועשית שתי טבעות זהב, ושמת אותם על שתי קצות החושן, על שפתו אשר על עבר היפוד ביתה. ועשית שתי טבעות זהב ונתת אותם על שתי כתפות היפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו ממעל לחשב האפוד. C'est-à-dire que toutes ces chaînes-là doivent faire en sorte que le chochen n'y bouge pas. C'est-à-dire qu'il est accroché au Bnei Israël en haut, il est accroché en bas, hein, à la ceinture, exactement. Il est accroché aussi derrière. C'est-à-dire que le éphod, c'est la chose la plus... Yatsiv de tous les habits, le Khoshen. Le Khoshen, c'est l'élément le plus fixe de tous les habits du Kohen. Pourquoi ? Parce que le Mishpat, c'est quelque chose qui doit être juste, fixe. Ok ? Verkesu et ta Khoshen mi tabbeotav, al tabbeot aephod, mi petil techelet, veliot al cheshev al aephod, velo yizach a Khoshen me al aephod. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו הלב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. On a compris que l'idée du חושן c'est תורת המשפט. ועשית מעיל ועשיתה מעיל, donc là on parle du troisième habit du Kohen, mazé, le manteau. Alors c'est pas un manteau comme nous, c'est la longue tunique du Kohen Gadol. On parle des habits du Kohen Gadol là, pour l'instant. D'accord ? Donc ועשיתה מעיל, hop, j'ai perdu ma page, ועשיתה את מעיל à Ephod, Kelil Techelet. Donc le Meïl, il est de quelle couleur ? Il est bleu. On va voir qu'il y a aussi un peu de Argaman, donc il est un peu rouge aussi. Mais regardez qu'est-ce qui se passe avec notre mail. Dites-moi s'il y a une façon de présenter le mail qui utilise un organe particulier. Regardez. Ve'asita et mail ha'efod kelil techelet. Ve'aya pi rosho betocho safa yé lepiv saviv ma'ase oreg kepi tachra yelo lo yikarea. Est-ce qu'on peut déterminer un élément du corps qui serait utilisé pour déterminer le méhil? Eh oui, c'est la bouche. Hein, je reprends le verset. Il y a pire au chaud. La bouche de sa tête. Betocho, sa faille, la lèvre. Et encore une fois, pire. Et encore une fois, pire. C'est-à-dire que le méhil, il est là que neged la shonara.
Une petite question. Oui. Est-ce que tu peux nous affirmer que le méhil, il est aussi bleu que le terrelet? Le terrelet, c'est un bleu azur.
Oui.
Et ça provenait d'un verre que Dieu a créé pour la circonstance?
Non.
Ah, si, c'est ça.
Ah, non, non, non.
Ah, j'ai entendu dire ça.
Mais la semaine dernière, nous avons expliqué que le terrelet, ou il y a deux semaines, je ne me rappelle plus, que le terrelet, ce n'est pas un verre, c'est argamon kekotsim, c'est un espèce de coquillage que lorsqu'on sort la bestiole et qu'on l'écrabouille, ça fait une espèce de pâte violette qui, lorsqu'elle sèche au soleil, devient bleu azur. Tu me demandes, est-ce que le méhil, il est aussi de ce même bleu? Ben, il y a marqué ici, ben, si t'as et méhil et fol, kelil techelet. Ah oui, hein? Maintenant, donc le méhil, on parle tout le temps de sa bouche. Il est keneged leshonara. C'est-à-dire, le ephod, il est keneged avodazara. Le choshen, keneged amishpat. Ve Amil Keneged Avoda Zara. Keneged Zara, Lashon Ara, je dis n'importe quoi. Lashon Ara. Ve Asita et Shulav Rimone Techelet Ve Argaman. Rimone Techelet Ve Argaman, Ve Tolaat Shani, Al Shulav Saviv Ve Pamone Zahav, Betoham Saviv. Pamon Zahav Ve Rimon, Pamon Zahav Ve Rimon, Al Shule Amil Saviv. Donc le bas du manteau est recouvert de clochettes. Une rimon, un paramon. Une grenade, une clochette. Une grenade, une clochette. Tout ça en or. Ok ? Il y en a 72 au final. Hein ?
Je ne les ai pas compris.
Ah ben il faut. On a retrouvé une de ces clochettes-là dans les fouilles archéologiques.
Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas très longtemps. Dans la rue qui mène entre Ir David et le Beth Amikdash, on a retrouvé une petite clochette en forme de grenade en or qui a les dimensions telles qu'elle est mentionnée dans la Mishnah. Donc ça, c'est incroyable ce genre de découverte. Vayal Aaron le sharet venishma kolo bevo el kodesh lifnei Hashem betzeto velo yamut. Donc il sert à quoi? À faire entendre sa voix. Ah oui, les clochettes, ça fait gling gling. C'est pour faire entendre quand le Cohen, il rentre où?
Le Kodesh.
Ben, c'est parce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué Bevo, El, El, Pasuk Lamedhe, Vaya al Aaron, Nesharet, Venishma, Kolo, Bevo, El, El, Kodesh. Pas Kodesh, Akodashim. El, Kodesh. Parce que quand il rentre dans Kodesh, Akodashim, il n'a pas ses habits dorés.
Il est tout blanc.
Il est tout blanc. Et oui, donc le goût des clochettes à Yom Kippour, il faudra repasser. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas vrai. Et Lama, quand il rentre dans le Kodesh, on entend toutes ces faits et gestes. Ok ? Ok. Un veloyam. Ve'asita tzitz za'av ta'o. Upitarta alav pituche chotam kodesh l'Hashem. Tu vas lui faire un tzitz. Pas de tzitz. Pas de tzitz.
Le tzitz, c'est un arbre qui poussait, qui donnait une certaine couleur.
Pas de tzitz. Zé a couronne. Le diadème du Kohen Gadol, sur lequel il y avait marqué Kodesh Lachem. Et où est-ce qu'il le porte?
Eh bien, il le portait sur le front.
Ben, Makom, j'ai la tefilin.
Et il me semblait.
L'an sur le front.
Il me semblait en
là.
De dire que.
Ron? והיה, ועשית ציד זהב טהור, פיתרת עליו פיתוחי חותם קודש לשם, ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת יהיה, והיה על מצח אהרון, על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם. בסדר?
C'est le choix
après. On a parlé des Ourim Vetoumim pendant que tu réglais la lumière. Les Ourim Vetoumim, c'est dans le Rochen, dans les pierres précieuses. Quand ils posaient une question, il y avait les pierres précieuses qui s'allumaient, les lettres des Bnei Israël qui s'allumaient. Mais ça, c'est Ourim Vetoumim. Dans le tzitz, il y a juste marqué Kodesh Lachem et c'est en or. Et c'est pas de la pyrotechnique. Ça ne se met pas, ça ne s'allume pas, c'est pas. Non, ça ne marche pas comme ça.
On avait inventé l'électricité déjà à l'époque.
Pourquoi?
Parce que ça s'allumait.
Donc, Choliot. À quoi ça sert? On nous dit Vaya al Metzach Aaron Menasa Aaron et Avon Akodashim. אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. מה זה והיה על מצחו תמיד? באמת? Qu'est-ce que ça veut dire que le Kohen Gadol il a son tzitz tamid על מצחו sur son front tamid? Et quand il va dormir? Et quand il va à l'extérieur du Beth Amikdash, où il n'a pas le droit d'être avec ses habits de Kohen Gadol. Donc comment ça se fait qu'il y a marqué ici « Vaya al mitzro tamid » Eh bien les amis, c'est ce que nous découvrirons. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est Hanouka, et pas la semaine d'après, vous avez encore Hanouka, donc la semaine d'après.
Chazak Bobo. Donc on s'est arrêté au début du révision.
Ouais, si tu le dis, je n'ai pas fait attention.